Merci beaucoup, les musiciens. Peux aller t'asseoir, je t'appelle. Ou alors reste près de moi, ça va, c'est bon. Allez, viens. C'est bon de vous voir, hein. À moitié, mais. J'ai demandé de rester parce qu'elle va nous rendre un petit mot de témoignage. Non, c'est pas une punition, hein, les ados. Les punis sont ici. Voilà, on continue. Souvent, on voit Jésus dans les évangiles qui est sollicité pour tant de choses et il prend le temps d'enseigner, il prend le temps d'enseigner, de parler. C'est encore touché Jésus, ça. C'est tellement bon d'entendre Jésus. Mais il opère ce miracle aussi à travers des hommes et des femmes, où il parle à travers nous et il vient nous fortifier. On veut entendre Jésus, ça c'est qui compte pour nous ce matin. Alors on boucle la première boucle de maturation. On va revenir différemment sur ces choses, mais Jésus disait que un disciple bien formé, c'est vraiment ça qu'on veut. Pas rester des bébés spirituels, mais devenir des disciples bien formés. Tout disciple bien formé sera comme Jésus, sera comme moi. Il y a donc toute une série de compétences qu'il nous faut acquérir, mettre en place. On ne peut pas être bon dans un domaine seulement. Et puis, à côté de ça, être vraiment des enfants, des bébés. On a besoin d'être mature en tout. Quelque part, bon, expert en tout. On termine avec le potentiel de l'Église. Pas l'institution, le corps de Christ. C'est pourquoi je parlais du potentiel ecclésiel qui vient du ciel. L'Église, il y a une part de l'Église qui vient d'en haut, qui vient du ciel, du Christ glorifié. Et l'Église, quand elle fonctionne bien, elle a un tel potentiel parce que c'est Christ parmi les hommes. L'image la plus utilisée dans le Nouveau Testament pour parler de l'Église, c'est le corps. Et c'est pourquoi, comme tu viens de remettre ton mémoire, je voulais qu'on profite 2 minutes de cela, parce que le corps, c'est pour ça que l'Église est comparée au corps. On est le corps du Christ, mais le corps recèle d'un tel potentiel. Inouï, on est tellement habitué à utiliser le corps qu'on ne pense plus à toute cette usine chimique, tous ces muscles, tous ces organes qui fonctionnent si bien. Dès qu'il y a un petit souci, on se dit waouh, ça je ne veux pas tolérer, il faut que je retrouve 100% de potentiel. La capacité de l'être humain. Ce matin, cette semaine, je lisais un article, je parlais de l'intelligence humaine, mais on est en train de pouvoir, grâce aux ondes gravitationnelles, de calculer l'expansion de l'univers. Einstein avait commencé cela, et on continue. Des mathématiques effrayantes. J'avais un ami pasteur en Suisse qui était au départ mathématicien, et un jour il parlait de là où il travaillait à l'université, il disait, on avait parfois des colloques à un tel niveau de réflexion mathématique, c'était inouï. Et on comprend que les gens parfois se prenaient pour Dieu, parce que c'était incroyable. Grâce à la gravitation des trous noirs de certaines planètes, on sait calculer la vitesse d'expansion de l'univers. Incroyable. Mais on a un corps humain qui est rempli de potentiel. Rempli de potentiel. Parfois qu'on n'exploite pas beaucoup, suffisamment. On a parlé du cerveau la semaine passée. Vous mettez le vôtre en on, oui, ok. Allez, tu viens de remettre en mémoire, en 2 minutes, tu te dis, qu'est-ce qui t'a frappé du potentiel du corps humain dans ton travail? Tu peux retirer ton masque, comme ça on t'entend bien.
Bon, du coup, ça n'a rien à voir avec mon mémoire, parce que mon mémoire, c'était sur des maladies du ventre, donc rien à voir. Mais de la semaine, j'ai eu le cas d'un petit garçon qui est venu à l'hôpital pour des crises d'épilepsie. Et qui en a fait devant moi, et c'est très impressionnant parce qu'il commence à vraiment avoir des secousses dans tous les sens. Et on a fait plein d'examens, et la médecin vient à côté de moi, elle dit « il fait semblant ». Et je la regarde, je fais « non, c'est pas possible, il peut pas faire semblant ». Elle fait « si, mais il s'en rend pas compte qu'il fait semblant ». Je dis « quoi ?» Elle dit « oui, il a tellement un... » C'est un petit garçon qui a plein de problèmes dans sa famille, il a eu plein de troubles quand il était petit. Et du coup, il se crée des crises d'épilepsie, mais elles n'existent pas, elles sont pas réelles. Et du coup, moi, ça me fait penser vraiment au potentiel mais de création qu'on a. Genre notre cerveau peut créer des maladies qui ne sont pas présentes. C'est ce qu'on appelle la somatisation. C'est le fait de, à force de penser à certaines choses, à force d'être inquiet, à force d'être stressé par certaines choses, on va commencer à avoir mal au ventre, on va commencer à être pas bien. Et lui, ben, il exprimait ça par des crises d'épilepsie. Et on se rend pas compte à quel point, en effet, on a un potentiel en nous qui, là, s'exprime d'une mauvaise façon parce qu'on l'exprime au travers de maladies. Mais du coup, on peut le retourner dans l'autre sens. Si on a ce potentiel, justement, d'être néfaste sur notre corps, je pense vraiment que Dieu nous donne ce potentiel par ses pensées, en ruminant des choses bonnes sur notre corps, de faire l'effet inverse et de permettre que des choses qui ne sont pas bonnes en nous soient bonnes. Et des maladies qui sont présentes, je pense vraiment qu'elles peuvent, on l'exprime par l'anxiété et toutes ces choses, mais c'est l'anxiété qui est la source de plein de maladies. Et c'est vraiment vrai, c'est connu, que ce soit des troubles au niveau du ventre, que ce soit des troubles au niveau musculaire. Mais si justement on arrive à laisser le Seigneur et son esprit apaiser cette anxiété, ça peut vraiment résoudre énormément de choses. Et ça, c'est une capacité que Dieu nous donne vraiment, qui passe par notre cerveau, comme vous l'avez vu la semaine dernière, du coup. Et ce cerveau, c'est nous qui en sommes maîtres, c'est à nous de décider ce qu'on en fait, et c'est nous qui décidons vraiment de quoi on va le nourrir, comment on va le travailler, comment on va le stimuler. Voilà.
Potentiel du corps. Je crois que plus je vais méditer, capacité, potentiel du corps, et quand je vais faire le parallèle avec l'Église, corps du Christ, l'Église locale, pas seulement l'Église universelle, l'Église locale qui est le corps du Christ, il en est la tête. Souvent, cette image est utilisée, il est la tête de l'Église. Ce qui veut dire que quand je vois Jésus qui marche sur les eaux, qui guérit, qui enseigne, qui fait du bien, qui est saint, qui est juste, attention, il est plein de compassion. Quand je vois le ministère de Jésus, quelque part, je vois le ministère du corps de l'Église. Nous voyons ce que doit être l'Église. Vous imaginez le potentiel de l'Église. Quel potentiel, quel appel sur nous à marcher sur les eaux des difficultés, à multiplier là où il n'y a pas assez le corps de l'Église. Ça, c'est nous. Voilà ce qu'il veut faire à travers nous. Potentiel de l'Église. Il faut vraiment qu'on développe ça ensemble, qu'on ouvre une nouvelle page de la vie de l'Église. Alors, aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. On avait amorcé ça la semaine passée et peut-être tu te dis, ok, ouais, le corps, génial, super, mais comment ça marche tout compte fait? Comment ça fonctionne? Et je voudrais poser tout doucement quelques pierres à l'édifice ce matin, voir comment ce corps se met en marche. Et il y a fort à parier qu'en regardant Jésus, en regardant les évangiles, on va trouver les bons principes de fonctionnement. D'ailleurs, on va lire un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 19. Et je vais prendre ce texte pour illustrer le fonctionnement du corps. On voit Jésus en pleine activité, en plein fonctionnement dans le ministère. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup à tirer pour le potentiel de notre corps, le potentiel de l'Église. Luc, chapitre 6, verset 12. Et j'ai entendu quelques pages qui se froissaient. Que le Seigneur te bénisse. C'est bien ça. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il appela aussi Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, celui qui devint un traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ce texte, je crois, va nous aider parce qu'il va illustrer comment nous devons fonctionner. Qu'est-ce qui se passe dans cette séquence? Premièrement, il y a trois phases. Jésus se retire seul pour prier. Jésus cherche l'intimité du Père toute la nuit. Deuxième phase, il appelle à lui une communauté. Il en choisit 12. Il forme une communauté formée de disciples qui va rester auprès de lui. Et dans l'après-midi, Jésus et les disciples vont exercer le ministère en répondant aux besoins physiques et spirituels de personnes qui sont venues. Trois séquences. Trois phases dans le fonctionnement de Jésus. Solitude, communauté, ministère. On a là l'exemple même type du fonctionnement de l'Église, du fonctionnement de notre vie de disciple. Solitude, communauté et ministère. Il en va vraiment de même pour nous. On a besoin d'imiter la séquence qui va, regardez Jésus, de l'intérieur, la communion avec le Père, vers l'extérieur. Il y a d'abord une consécration au Christ. Ce qu'on appelle la solitude, l'intimité avec Dieu, qui nous emmène à la consécration dans la communauté, le vivre ensemble, qui nous amène au ministère, au service, à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous voyez la place de la communauté ? J'aime ce texte, parce que je vois la communauté comme une passerelle. Si ça, c'est la communauté, il y a la passerelle vers l'intimité. Et la passerelle vers le ministère extérieur et intérieur. Tel est le but de la communauté. Une passerelle vers l'intimité et une passerelle vers le service pour les autres. Et je voudrais dire, je vais m'arrêter sur ces trois phases. Tout d'abord, la solitude, la consécration à Jésus, l'intimité avec Jésus, l'intimité, comme le rêve le disait, avec la croix. Au cœur du ministère de Jésus, écoutez bien ça, je voudrais graver ça dans vos cœurs. Au cœur du ministère de Jésus, la prière. Au cœur de sa vie, l'intimité avec le Père. Si vous lisez bien les évangiles, Jésus n'est pas d'abord un personnage public. Jésus, Luc 5, j'ai déjà commenté plusieurs fois ce texte. Agenda hyper chargé. Et Luc fait cette petite remarque et il change le temps en grec. Mais Jésus était habitué au désert et à l'intimité avec le Père dans la prière. Et ce verbe-là en grec indique que c'est une habitude constante. Jésus était un homme de prière. Il vivait devant la face de son Père, une intimité. Ici, il va passer la nuit. Mais bien sûr qu'il connaît les 12. Mais c'est un homme. Et il a besoin de l'intimité avec le Père. Il se levait tôt. Parfois, il allait coucher tard. Parfois, il dormait pas. Il vivait un avec... Pourquoi est-ce qu'on l'a crucifié? Pourquoi est-ce qu'on a voulu l'arrêter? Parce qu'il disait qu'il était un avec le Père. Et les Juifs ne pouvaient pas supporter qu'un rabbin appelle Dieu Abba. C'était déjà le tétragramme ineffable. On ne prononçait pas le nom de Dieu. Et lui, il vient avec Abba. C'est pas le groupe, hein. Père, mon tendre Père... Au cœur du ministère de Jésus, ne nous trompons pas. Pourquoi est-ce qu'il démarre à 30 ans? Mais parce que pendant 30 ans, sur terre, il a appris l'intimité avec le Père. De toute éternité, il vivait avec son Père et l'Esprit dans une communion parfaite. Maintenant, en tant qu'homme, hein, Luc 2, il dit, il croissait. Deux fois, c'est dit. Il a dû croître dans l'intimité. Au cœur du ministère de Jésus, c'est l'intimité avec le Père. Comment est-ce que je pourrais envisager ma vie autrement? Je voudrais encore nous bouleverser. Je sais que ce sont des choses qu'on connaît, mais j'ai besoin de encore et encore de recentrer ma vie. Au cœur de mon existence, c'est l'intimité, c'est la solitude. On va voir que je ne pourrais pas aller plus loin dans la communauté et dans le ministère si cette phase-là n'est pas en place. Si je ne vais pas me ressourcer, me régénérer dans la présence du Père, comment est-ce que je pourrais envisager la vie chrétienne autrement que d'abord dans la solitude, dans l'intimité? Il nous est donné à nous de nous approcher librement. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, voilà, avec quelques années qu'on se connaît, que le verbe le plus important dans le Nouveau Testament qui découle de l'œuvre de Jésus, c'est « nous pouvons nous approcher ». Mais les Juifs devaient faire super gaffe quoi, pour s'approcher de Dieu. Par l'œuvre parfaite de Jésus, on peut s'approcher encore et encore. En préparant, je me suis dit, mais c'est peut-être l'occasion maintenant de rappeler que dans les 11 chapitres qui ont précédé, on a mis l'accent toujours sur la centralité de Jésus, sur notre besoin de communion avec lui. Et je nous rappelle ceci. Quand on a parlé de la vie décloisonnée, une vie centrée sur Jésus, pour ne pas fragmenter notre existence, pour ne pas être un travailleur qui n'a rien à voir avec le Christ, mais pour que le Christ soit au centre de tout, eh bien, quand c'est le cas, toutes les composantes de ma vie familiale, ma vie professionnelle, mes finances, mes amis, vont trouver leur juste place quand le Christ est au centre. Quand on a parlé de notre identité en Jésus, qu'est-ce qu'on a indiqué ? Que quand je me sais aimé du Père, quand je sais que je participe à la vie du Christ, quand je sais qu'il est en moi, ça va me donner une identité rassurée, remplie d'assurance, avec une juste estime de soi. On a parlé de beaucoup de livres qui font la une des librairies sur le développement personnel. Mais en Jésus-Christ, quand je me sais aimé du Père, quand j'ai une juste relation avec lui, j'aurai l'assurance qu'il faut, l'estime qu'il me faut. On a parlé de la spiritualité, n'est-ce pas, pour la développer. Qu'est-ce qu'on a dit? Que l'intimité intérieure avec le Christ me donne l'énergie pour l'activité extérieure. L'intimité intérieure avec le Christ, c'est ça la spiritualité, me donne la force pour l'activité extérieure. On a parlé des disciplines spirituelles. C'est 20 disciplines, jeûne, prière, qui sont quoi? Des moyens qui nourrissent mon intimité avec Jésus. Elles ne sont pas des fins en soi, ce sont des moyens de développer l'intimité. Quand on a parlé de la croissance, de dynamiser sa croissance spirituelle, qu'est-ce qu'on a dit? Tu as besoin de jouir du moment présent avec Jésus. Tu as besoin de jouir du moment présent avec Jésus pour que ton faire découle de ton être. On est dans une société qui te pousse à faire, à faire, à faire, à regarder vers demain. La croissance, elle passe par le fait de jouir du moment présent avec Jésus, ce qui va nous donner toute l'énergie pour faire. On a parlé du relationnel. Quand tu aimes Dieu, quand tu aimes le Christ, tu vas avoir juste amour de toi et compassion des autres. On a parlé de l'esprit et du combat spirituel pour nous rappeler qu'on est vraiment dans un combat contre le monde, contre notre propre chair, contre l'ennemi. Dans cette guerre, j'ai besoin de me revêtir des armes spirituelles, de me revêtir du Christ, dit l'Écriture, pour mener une vie qui pourra demander explication. On a parlé de la transmission, de notre transmission. Qu'est-ce qu'on a dit? On a mis l'accent sur la vie intérieure du Christ en nous. La vie du Christ en nous, ça va nous permettre quoi? De nous édifier les uns les autres et de partager l'Évangile. On a des choses à transmettre, pas simplement à donner, mais cette vie du Christ en nous va faire qu'on va prendre soin les uns les autres et on sera porteur du message de vie. On a parlé des motivations. J'ai besoin de voir et d'être motivé par ce que Dieu déclare important. Ce que le Christ déclare important pour ma vie. On a parlé des changements de valeur. Arrêtons d'investir dans le temporel, mais investissons nos vies dans l'éternel. Une autre manière de le dire, c'est cherche le Christ. Cherche le royaume du Christ. Pense au Christ, aux choses qui sont en haut. Vous voyez, dans ce parcours, toutes ces facettes de notre spiritualité se focalisent sur Jésus et notre marche avec lui. La vraie spiritualité, c'est se centrer sur le Christ, notre marche avec lui. Quand je vais apprendre à le connaître, à l'aimer, quand je vais me charger de sa croix, quand je vais renoncer à ma petite vie pour la sienne, je vais le connaître, je vais l'aimer. Par mes contacts quotidiens avec Dieu, avec le Christ, par ma confiance qui se développe, par mon admiration, par ma crainte croissante, par mon appréciation de ce qu'il est, quand je vais goûter à mon acceptation par Jésus, mon amour pour lui va se développer. Et le sommet, c'est que Dieu va s'aimer à travers moi. Vous voyez, premièrement, première séquence, premier fonctionnement du corps, individuellement, collectivement, l'intimité, la solitude avec Jésus, la consécration à Jésus. Jésus ne veut pas d'abord notre activité, il veut notre cœur, il veut notre présence. Prends du temps, prends beaucoup de temps avec Jésus. Expose-toi à Jésus. Il les a appelés, il a passé 3 ans, jour et nuit. Et nous, on s'imagine quelques petites minutes par-ci, par-là, l'intimité avec Jésus. Consécration à Jésus. Ce qui amène la consécration à la communauté. Plus les croyants vont mettre à profit les moments de solitude avec Jésus pour cultiver l'intimité avec le Seigneur, plus nous serons à même d'être en communion les uns avec les autres. C'est une vérité tellement fondamentale. Plus je vais profiter de cette proximité avec le Seigneur, et plus je serai à même de m'investir convenablement, de vivre en communion avec les autres. Vous savez, la véritable communauté, Jésus passe la nuit et puis il forme une communauté autour de lui, les 12. La véritable communauté chrétienne, ce n'est pas la juxtaposition d'individus seuls et isolés. Ce n'est pas juste rassemblement de personnes isolées. C'est un organisme de gens qui se savent acceptés et aimés par Jésus. Dieu ne fait pas de nous des chrétiens électrons libres. On n'est pas une colonie d'ermites, mais on a un organisme vivant de gens centrés sur autrui. Un organisme dont le Christ est la tête, ça c'est l'Église. Un organisme vivant avec la vie du Christ, il en est la tête, et un organisme qui est centré sur l'autre, pas juste des électrons libres. On a parlé la semaine passée du grand danger dans notre société de l'individualisme. C'est pas ça l'Église. C'est un peuple qui a une relation avec le Christ, il en est la tête, il nous rassemble avec comme objectif le souci de l'autre. La solitude et la communauté sont authentiques quand elles s'enrichissent mutuellement, quand il y a l'interaction de la dimension verticale avec Dieu et horizontale les uns avec les autres. La solitude et la communauté vont s'enrichir de par notre densité de vie avec Dieu. Je goûte à l'amour de Dieu et en même temps, je suis en contact avec mes frères et sœurs et je peux leur apporter cet amour. Je voudrais nous dire ceci. La vie communautaire n'est pas facultative. Cette période de pandémie met à mal l'Église. Des églises ont fermé les portes. La vie communautaire dans le corps de Christ, ce n'est pas facultatif. Et je sais que ce n'est pas facile de vivre les uns avec les autres, mais je m'appauvris sans les autres. Spirituellement, je m'appauvris sans eux. Les avantages de la vie communautaire dépassent largement les inconvénients. Largement. Je me suis assis... Et en pensant à tous ces chapitres parcourus, je me suis dit, mais quel est l'avantage de la vie communautaire? Je vais juste mentionner une quinzaine de choses. Je me dis, mais oui, voilà l'apport de la vie communautaire. Enrichissement relationnel et sens de l'engagement. Notre confiance, notre amour, notre acceptation va grandir dans une communauté où on offre l'amour de Dieu. Il y aura une soumission mutuelle, on a besoin de cela. Dans la crainte de Christ, il y aura un lieu d'encouragement, de responsabilisation. Tellement d'une société où on n'accepte plus la responsabilité. Quand on vit ensemble, on accepte la responsabilité que le Christ nous donne. On va apprendre aussi à vivre dans la confession mutuelle. Quand on s'est blessé les uns les autres, ce sera plus facile aussi d'approcher la croix en demandant pardon. L'Église doit être un lieu de guérison physique, psychologique et spirituelle. On va se développer ensemble. par la vie, on va développer notre vie par l'écriture. On va méditer ensemble, on va prier ensemble, on va participer ensemble à une mission. C'est pas juste le dimanche matin, c'est faux ça. On a vraiment une mission à remplir ici. On a des objectifs communs. On va vivre l'amour de l'autre comme l'expression même de notre vie spirituelle. Ce sera un lieu de ministère, de service, un lieu où l'expression de l'unité va se manifester dans la diversité. C'est un lieu où on va recevoir des directives spirituelles, de le soutien des disciplines spirituelles. On va soutenir ceux qui sont dans le besoin physique, émotionnel, financier. Ce sera un espace qui doit être favorable, propice à la croissance et à la transformation. On va apprécier les dons des uns et des autres et la vie des autres. Notre vie personnelle avec Jésus devrait vraiment entretenir la vie communautaire. Notre vie seule avec Jésus doit venir enrichir la vie communautaire. Et je crois aussi que la vie communautaire va enrichir, va nourrir notre vie seule avec le Christ. On a donc besoin d'alternance entre la solitude et la communion. On a besoin de se tenir à l'écart et on a besoin de s'engager. On a besoin d'intimité, mais on a besoin aussi d'activité. On a besoin d'être servi. On a besoin de servir, on a besoin de croissance personnelle, mais on a besoin aussi de croissance communautaire. Et je termine. Fonctionnement de Jésus, fonctionnement de l'Église, la solitude, la consécration à la présence de Jésus, mais consécration aussi à la communauté. On s'enrichit, on se donne, il y a une part de Dieu que j'offre aux autres, et il y a une part de vous que vous devez offrir aux autres. Et puis consécration au ministère. On n'est pas appelé à être grand dans l'exercice du ministère. On voit les disciples se chamailler. Qui est le plus grand? C'est pas ça. On a besoin d'être consacré à Jésus. Grand dans notre consécration. Il n'y a pas de grand ministère. Il y a des hommes et des femmes qui se consacrent à Jésus pour servir. Jésus a passé la nuit dans la prière. Il a appelé les 12, il a formé une communauté, et l'après-midi, qu'est-ce qu'il a fait? Ministère. Il a béni physiquement, spirituellement, les gens qui étaient dans le besoin. Cette intimité avec lui va s'exprimer dans la communion, les uns avec les autres, quand les chrétiens se rassemblent pour se mettre au service les uns des autres, en vue de servir le monde. Et quand je dis le monde, c'est aussi en interne comme en externe. Vous voyez comment Jésus fonctionnait? Solitude, communauté, service. Quand les chrétiens sont chargés de la présence de Christ et qu'ils peuvent prendre soin les uns des autres, se fortifier, alors ils sont prêts à aller et servir et se faire de toutes les nations des disciples. En servant, en multipliant le pain, en annonçant l'évangile. Notre service dans le monde, en faveur des croyants comme des non-croyants, doit procéder de la combinaison de la communauté et de l'intimité. Ça doit procéder de ma relation avec Dieu et de ce que nous vivons ensemble. Et on voit ça si souvent dans le Nouveau Testament. Paul termine son épître aux Romains, chapitre 12, partie pratique. Comment est-ce qu'il commence? Consécration à Dieu. À cause de la compassion de Dieu, offrez vos corps. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Vie dans la communauté, service dans le monde. Consécration à Dieu, consécration à la communauté pour une consécration dans le monde. Alors attention, je voudrais nous dire que le ministère extérieur ne crée pas l'intimité personnelle avec Dieu. Parfois, les chrétiens s'imaginent ça. Ouais, j'ai bien servi, donc ça marche bien avec Dieu. C'est faux, ça. Notre service extérieur ne crée pas l'intimité personnelle avec Dieu, ni celle avec les frères et sœurs. Elle doit découler. Notre service dans le monde doit découler de mon intimité avec Dieu et de la communion les uns avec les autres. C'est parce que j'ai goûté à l'acceptation, au pardon, à la vie de Christ que je peux l'offrir. Et si souvent on est très faible dans notre service parce qu'on n'a pas goûté suffisamment. C'est pour ça que Jésus disait, ce que je vous dis, Je l'ai entendu du Père. En tant qu'homme, il a dû passer du temps pour entendre du Père. Le Père a dit, ne va pas maintenant chez Lazare. Laisse-le croupir encore un peu. Sinon, Jésus, très souvent, on l'appelle, il y va. Nos ministères doivent découler de l'intimité, de la communion ensemble au service des autres. Alors, je conclue. Peut-être tu te dis, c'est quand même un doux rêveur, lui. Il vieillit, mais il rêve encore. C'est vrai que la communauté, c'est un vrai défi, quoi. C'est un vrai défi. Parce que l'Église n'a jamais été exempte de manipulateurs, de tyrans, de dissidents, de fauteurs de division. Et ceux qui troublent l'Église témoignent d'un comportement simplement charnel. L'homme naturel, ses pensées. L'Église a souvent été malmenée à cause de la chair, la volonté humaine. On est tous capables d'adopter cette attitude-là. Et le pire, c'est que rares sont les perturbateurs qui en sont conscients. C'est tellement facile de justifier son comportement par des raisons spirituelles, en disant « Ouais, c'est pour le bien d'autrui, mais tout compte fait, c'est quand même ta chair qui te dirige. » Regardez l'église de Corinthe. Il y avait vraiment des tueurs de communauté dans cette église. Il y avait des membres qui tuaient la communauté par leur esprit sectaire, par leur orgueil, par leur comparaison, par leur comportement charnel, par des rivalités, par des jalousies, par des critiques, par leur immoralité, par les poursuites judiciaires, par leur idolâtrie, par leurs plaintes, par leur égoïsme et leur erreur doctrinale. Tu es quand même un fameux tueur d'église là-bas. Et quand je fais un peu comme eux, quand je compare, quand je rivalise, quand je cherche toujours à me justifier, quand je cherche tout compte fait mon intérêt, pas celui du Christ, j'abîme l'Église. Regardez l'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, l'Église qu'il a implantée, il a une telle relation d'amour avec cette communauté, et c'est une Église qui est en proie à la division aussi, et dans son appel à être une même pensée, un même cœur, un même esprit, un même but, Paul dit ceci, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. » Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Alors c'est vrai que l'Église, c'est un vrai défi. Et ça ne sera possible que si nous marchons par l'Esprit de Dieu. L'Église est un lieu où l'Esprit doit régner. L'Esprit du Christ. J'ai besoin d'être... Pour qu'on puisse vivre une vraie solitude, une vraie relation les uns avec les autres, pas être des Robinson Crusoe qu'on rassemble le dimanche et puis qui ne se voient plus, pour avoir un impact, j'ai besoin de la vie du Christ en abondance en moi. J'ai besoin de faire dépendre mon identité de Jésus et pas de l'opinion fluctuante d'autrui. On a déjà dit que quand j'apprends vraiment à ne pas être esclave des attentes des autres, des opinions des gens, quand le regard de Jésus me suffit, alors je pourrai vraiment les servir et les aimer. Ce qui menace fondamentalement l'Église, c'est l'intérêt égoïste, c'est l'égoïsme. Mais le plus grand facteur d'édification, c'est quand mon regard se porte sur les autres, comment on intéresse les autres. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment je peux vous faire grandir? Comment je peux vous emmener plus loin? Comment je peux vous aimer? Souvent, je me dis, l'enfer, il est égocentrique. Il est peuplé de gens qui sont isolés les uns des autres, recroquevillés sur eux-mêmes, chacun pour soi. Tandis que le ciel est peuplé d'hommes et de femmes centrés sur les autres et qui entretiennent des relations les uns avec les autres. Notre potentiel ecclésiel, il y a un vrai potentiel. Mais ça va nous coûter, c'est vrai, ça va nous coûter beaucoup. Parce que je serai obligé d'aller à contre-courant de ma tendance à l'individualisation. Moi d'abord, non. Je vais trouver tout ce que j'ai besoin dans la présence de Jésus. Je n'ai pas besoin de taper sur la tête de ma sœur, de mon conjoint, pour dire « aime-moi, sécurise-moi ». Je vais trouver tout ça dans la présence de Jésus. Et je vais rejoindre mes frères et sœurs en pouvant donner la part de Jésus qui est en moi. Et je vais recevoir d'eux ce qui me manque aussi. Et ensemble, on pourra aller servir le monde. Jésus a fonctionné comme ça. Et moi, j'y crois encore aujourd'hui. Et je crois vraiment, l'idée du registre, on en parlait avec l'équipe pastorale, je voudrais qu'on ouvre un nouveau registre, où à la fin de cette première série, nous allons, comme au retour de l'exil, signer ce registre en disant, Seigneur, tu pourras compter sur moi. Il rentrait de Babylone, un peu partout. Il venait à Jérusalem. L'œuvre était énorme. Mais ils ont dit, avec nos faibles moyens, on va le faire. L'œuvre autour de nous est énorme. On a besoin de réaliser que l'enjeu d'une vie, c'est l'éternité. Et nous sommes porteurs de vie. Paul disait, brillez comme des flambeaux dans cette génération perverse. Il y a des vrais défis devant nous. Et ça va nous coûter. Ça va nous coûter. Parce que je devrais aller à contre-courant. La volonté de contrôler ma vie. Mais je vais vous dire ceci, je termine. Le jeu en vaut la chandelle. Parce que j'éprouve plus de joie quand je la partage. Le jeu en vaut la chandelle. Tu vas éprouver plus de joie quand tu la partages, quand tu te donnes. La joie, elle s'atrophie quand j'essaye de la stocker. Elle se meurt. Comme l'eau, elle va croupir. La joie, elle se multiplie quand je la donne, quand je m'investis dans la vie de l'autre. Notre relation personnelle avec Jésus se manifeste par notre façon de nous lier les uns aux autres. Alors j'ai le choix. Soit je marche par moi-même, avec mes propres désirs, ma chair, ou j'installe un cadre de vie où tous les jours, je vais être nourri par la pulsion de l'esprit, cette vie d'en haut, dans la solitude. Ce n'est pas qu'une affaire de connaissance, c'est une question de volonté. J'ai besoin volontairement de m'abandonner à l'esprit, de le chercher, de m'enivrer de lui. C'est ça dont j'ai besoin pour prendre soin des autres. On va alors favoriser la santé et le bien-être de l'assemblée et de ceux qui sont autour de nous. Quel beau texte. Imitons Jésus. On a besoin d'imiter Jésus. Être très proche de lui. Sensible à sa présence. Ne néglige pas le temps avec lui. Parfois, l'Église est très pauvre en intimité avec Jésus. Ça se voit. Vous pouvez voir quand je suis loin de Jésus. Si vous regardez bien, vous pourrez le voir. Mais vous pourrez voir aussi quand quelqu'un est proche de Jésus. On reconnaît ses pierres. Ah ouais, t'as le même accent. Il a été avec Jésus. Il n'était pas au bon endroit, je prends ça une illustration. Quand quelqu'un est auprès de Jésus, ça se voit, mes amis. Ça se sent. Ça va avoir un impact. Quel potentiel! Quand je suis chargé de Jésus, il y aura, on l'a lu, hein, Corinthiens 12, parole de connaissance, chacun, tu es un membre unique et vraiment nécessaire. Un mal de dent, juste à une dent, je veux dire, je me souviens, c'est Michel, on visitait quelqu'un qui souffrait beaucoup, et cette personne disait, oh, par rapport à d'autres. Et Michel disait, c'était juste. Oui, mais tu sais, hein, avoir mal à une dent, une bonne rage de dent, juste pour une dent, ça te met KO. Une dent. Si tu es une dent, ne carie pas. Vis, mâche, broie, coupe. L'Église en a besoin. Nous tous. Dans le corps de Christ, on a notre place. Et j'ai pas besoin de vouloir être ceci ou cela. Sois ce que Dieu a fait de toi. Chargé de Christ, prends ton rôle, laisse les autres aussi remplir leur rôle. Et quel impact? Quel impact après dans le monde? Comment on pourra servir? Comment on pourra aimer? Jésus, et je termine vraiment avec ça. Le musicien, vous revenez. Pierre dit, Jésus, partout où il allait, faisait du bien. Oui. Pierre dit ça à Corneille. Peut-être on se lève, on va chanter avant de prendre la scène. Et la scène, ça va être pour nous comme un moment d'engagement, de prendre conscience qu'on est ce corps. On est ce corps. Il y a cette vie qui est là. Pierre dit, partout où Jésus passait, il faisait du bien. On doit être connu pour des hommes et des femmes qui font du bien, qui bénissent. Ok, il y aura de l'opposition, certains ne seront pas d'accord, ok. Il y aura aussi les pierres, ça c'est la croix. Mais il y aura aussi le bien. Préparons-nous pendant à ce moment de scène où Jésus rassemble une partie de son corps. Et il nous dit, viens, suis-moi, suis-moi.